son héritage, c'est un peu un côté réel politique, c'est-à-dire qu'il faut faire avec les moyens qu'on a et aller jusqu'au bout, ne pas avoir trop d'idéal ou de sentiments par rapport à ce qu'on fait. Donc une sorte de chirurgie au scalpel lorsqu'il s'agit de le faire et de ne pas prendre beaucoup de gants. Bien entendu, tout ça enrobé d'une présentation hautement intellectuelle. C'est certainement l'un des occupants du poste de Secretary of State que beaucoup de gens pensent être le plus intellectuel dans sa formation, dans son attitude. Mais au finish, un héritage assez lourd et assez divisé.
Quelles critiques ou controverses majeures entourent la carrière de Kissinger en tant que diplomate? Comment cela a-t-il affecté son héritage dans les relations internationales?
Beaucoup de spécialistes en sciences politiques pensent qu'il a été le meilleur secrétaire d'État de l'histoire des États-Unis. En tout cas, c'était un peu l'impression qu'on avait il y a peut-être une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Maintenant, son bilan est un peu plus mitigé. D'autant plus que, disons, le bilan qu'il présente, la fin de la guerre du Vietnam, par exemple, un peu le complot dans lequel il s'enferme avec Nixon pour piéger que les démocrates aient fait en sorte que, effectivement, la guerre du Vietnam peut-être aurait été résolue un peu plus tôt si lui et Nixon ne s'étaient pas mis. Donc, dans la perspective, effectivement, d'enlever cette victoire à un président démocrate, mais plus profondément, les résultats du coup au Chili, donc le renversement d'Allende par Pinochet, et où visiblement, donc, Kissinger voulait donner une leçon magistrale de la capacité des États-Unis à intervenir sans actuellement paraître y intervenir, sans mettre des soldats sur le terrain et en utilisant des proxys, comme on les appelle maintenant, pour faire le travail. Et donc, le coup donc qui a renversé Allende au Chili est l'une des taches les plus noires dans sa réputation par la suite.
Est-ce que ces actions ont-elles influencé la politique internationale moderne?
Ah oui, tout à fait. On peut dire que c'est dans son sillage que même ce qu'on a appelé plus récemment les néocons ont démarré à avoir une influence au département d'État, c'est-à-dire des idéologues qui n'utilisent pas les canaux habituels de la diplomatie, et donc ou les négociations de personne à personne, où les systèmes un tout petit peu se suivent et se marquent, mais font des concessions sur le plan pragmatique. Et donc, on doit se rappeler que parmi les gens qui sont dans son cercle, il y a effectivement beaucoup de ce qu'on a appelé par la suite donc les néocons, en particulier Brent Scowcroft et d'autres, Richard Allen. Donc, en quelque sorte, il a effectivement laissé cette idée que, en réalité, les politologues purs de l'école de Chicago en particulier et de Georgetown sont capables de mener la diplomatie américaine aux grandes dames de la diplomatie traditionnelle qui était faite un tout petit peu d'approche et de touches légères ou de convenances et de politesse et disons beaucoup de formalités pour arriver à des résultats. Kissinger donc a inauguré cette façon de faire qui, comme je l'ai appelé il y a quelques minutes, est un peu une sorte d'intervention au scalpel. On va directement au but, on ne centre pas beaucoup de précautions, en particulier pas de précautions verbales inutiles, et donc seul le résultat compte, et en particulier le prix à payer, quel que soit le prix à payer, seul le résultat final compte, et donc cette école-là effectivement a influencé, on l'a appelé la réelle politique ici ou là. C'est certainement lui qui a inauguré cette façon de faire la diplomatie.
Vous avez défini tout à l'heure le style et la méthode de Kissinger en tant que diplomate. Quelles sont ses réalisations les plus marquantes dans ce domaine? Le rapprochement avec la Chine?
Oui, c'est certainement le joyau de la couronne, si on peut parler ainsi. Arriver à convaincre Nixon d'abord de voyager dans des endroits où éventuellement l'anti-américanisme semblait être à fleur de peau, mais arriver à entamer un dialogue avec les Chinois donnant et faire en sorte que, donc, évidemment, ce qui laisse compter, c'est un peu détacher la Chine de l'Union soviétique, ce qui était un but immédiat et important qu'il a partiellement achevé à l'époque. Et effectivement, effectivement la diplomatie du ping-pong et tout ça, c'est certain que ça va rester dans les annales de l'histoire comme étant un coup de maître parce que finalement beaucoup de gens n'étaient pas très pessimistes quant à la possibilité, quant à la possibilité d'un rapprochement et même de réconciliation entre la Chine et les États-Unis, donc à la fin des années 60 ou au début des années 70.